Charline ?
Oui ?
Aude, à votre invité, je le fais rarement, mais que de chemin parcouru ensemble, mon cher François, quelle délicatesse !
J'ai presque l'impression d'être à 17h et d'envoyer le grand entretien.
C'est incroyable.
Merci, c'était Laetitia Gaillet pour le journal.
Ça y est, une opéra hostile.
Ça va Laetitia ?
Ça va, à fond les gamelles.
Je vous embrasse.
Moi aussi.
Ça c'est le petit milieu parisien ?
Pas du tout, c'est moi
qui t'aime. Petit milieu germano-pratin qui se retrouve.
Tout le monde couche avec tout le monde.
Bien sûr, parce que vous pensez qu'à Limoges ou à Marseille, on s'intéresse aux petites histoires. Mais bien sûr,
ça fait complètement moins cool qu'avant les Belges, non ? Qu'est-ce qui va vous arriver ? Détendez-vous les enfants.
Et tout ça, ça fait le jeu du Front National.
Bien sûr. Coupé de la réalité des Français.
Allez, bon, écoutez, okay, bon, merci. Comment faire, on a préparé cette émission ce matin.
Salut Charlie.
Il est temps que ça se termine.
Pour une fois, tu penses la même chose que Macron.
Oula. Bon, alors on reçoit qui ?
François Bunel.
Pourquoi tu dis ça ?
Oh là, c'est notre prédécesseur. C'est lui qui avait la case 17h sur France Inter pendant 3 ans.
C'est comme s'il revenait voir son ex.
Oui, si tu veux, ouais.
Il va être surpris parce que ça a quand même pas mal changé.
Son ex, on l'a remaquillé, relooké, il va peut-être même pas la reconnaître.
Comment il s'appelait son émission ?
Le Grand Entretien.
Et puis il prenait le temps de parler avec les gens.
Et maintenant, l'invité doit bagarrer pour remplacer une.
Mais bon, j'essaierai de bien l'interviewer, tu sais.
C'est le minimum.
Je vais essayer de faire du Bunel, quoi.
Oui, pour pas qu'il soit complètement perdu.
Les ex font toujours ça et te rappellent des bons souvenirs.
Comment il interviewait Bunel ?
Il se penche vers toi comme ça, il te regarde dans les yeux, puis il enrobe ses questions d'une voix de velours. C'est tout moi ça.
Oui, mais justement, on va s'entraîner. On parle de quoi aujourd'hui ?
Mélenchon, non ?
Ah, bah, comme tous les jours.
Heureusement qu'il est là, Mélenchon. On serait bien emmerdé sinon entre les deux tours.
Ça, c'est une phrase de Ben Laden.
Quoi ?
Je me suis bien ennuyé entre les deux tours.
Bravo, merci.
Bon, alors vas-y, Charline, on essaye. Vas-y, pose-moi une question à la Bunel sur Mélenchon.
Là, comme ça.
Allez, on y va. Sujet 1, question 1, clap première.
Oh là là, bon, alors. François Bunel, ne croyez-vous pas que dans un siècle décrit par Octavio Paz comme précaire, la position de Jean-Luc Mélenchon fait un petit peu, comment dirais-je, mal au cul ?
Alors, c'est pas mal. C'est peut-être un peu trop là.
Trop penché en avant.
Un peu trop abrupt.
Oui, sur la fin.
Moi, je trouve qu'il y avait tout.
Peut-être terminé par ça fait mal au
océan. C'est plus tranquille.
Et non, quand on revoit son ex, c'est jamais tranquille.
C'est vrai.
Ça fait mal au cul. Bonjour la France Inter au langage châtié. Bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui fait un clin d'œil à l'actualité. Et voici les trois informations qui n'ont pas été pompées sur un discours de François Fillon. Les insoumis ont déjà voté pour le deuxième tour. Ils pouvaient voter jusqu'à midi pour organiser leurs consignes de vote. Les insoumis se soumettent juste à la pression du choix.
Mais qu'est-ce que vous fabriquez dans cette position ?
J'ai décidé de régresser, complètement. J'ai pris la position du fœtus. Je suis dans le ventre de ma mère et plus rien ne peut m'arriver.
Le plagiat en politique. Ah, pardon, non. Le clin d'œil en politique, nous dit-on. C'est Marine Le Pen qui a pompé Fillon, si je puis me permettre, en reprenant des pans entiers de son texte qui a... elle a un très bon ami nègre, il s'appelle François Fillon, quoi.
Dis donc, t'as fini de répéter tout ce que je dis, toi ?
Tu vas répéter ce que je dis, toi ?
Tu te tais maintenant ?
Tu te tais maintenant ?
C'est fini, oui ?
C'est fini, oui !
La littérature régionale s'ouvre sur le monde et n'est pas à l'abri de faire des best-sellers. Cessons donc de l'appeler littérature de terroir et invitons-la sur les grandes chaînes de télévision. Eux, ils savent y faire.
La fameuse bonnotte de Noirmoutier à la poêle avec un peu de beurre, c'est délicieux.
Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui dont la région d'origine, c'est Bruxelles, autant dire la banlieue parisienne, Alex Vizorek.
Bonjour Charlotte Van Macaire, et aujourd'hui, pour accueillir un ancien de l'antenne, une belle équipe évidemment, 17h20, l'homme pour qui la vie est un sport, au point que chez lui, quand il y a de la poussière, il passe la voiture balai. C'est vous Samir Bouadi, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charlotte. Écoutez, que cette période d'entre deux tours étant quasiment vierge de tours aliments artistico-sportivo rigolo, hein. Si on met de côté les balbutiements de Zidane, ridicule de ces derniers temps, je vous ai trouvé un joueur de foot mort, hein. Mort mais bien engagé, un étranger, un certain Albert Camus.
17h30, celui qui aurait pu être Columbo, puisqu'il finit toujours par vous faire dire ce que vous auriez dû taire, mais il ne ferait pas un bon Columbo, puisque lui n'a aucun souci avec sa femme. C'est Guillaume Meurice, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Moi aujourd'hui, je me suis posé une question toute bête. Qu'est-ce que c'est exactement les valeurs de la République ? Mais ce matin, ceci dit, j'ai croisé aussi une dame qui n'aimait pas la République. Pourquoi ?
puisque ce sont les républicains qui ont tué une partie de ma famille pendant la Révolution française.
Ah, petite fille de Marie-Antoinette, t'as pas bien digéré, a priori. Et 17h40, celle qui se noie plus facilement dans un livre que dans un verre d'eau, et c'est essentiellement dû au fait qu'elle consomme plus le premier que le second, c'est Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour.
De quoi on va parler ?
De la littérature de l'Amérique.
Ah bah oui, ça tombe bien peut-être, ça, non ?
Bah oui, évidemment. Hey. Car voici celui qui a tout annulé pour présider cette émission. Vous débutez sur RFI en livrant des reportages depuis l'Afrique et le Moyen-Orient. Vous enseignez la philosophie, notamment à Sciences Po, puis vous devenez journaliste littéraire, vous entrez à l'Express, et au lendemain des attentats de 2001 à New York, vous inaugurez une série de rencontres avec les grands écrivains américains. En 2004, vous dirigez la revue Lire, depuis 2008, vous présentez la grande librairie sur France 5, et vous avez occupé ce créneau, donc 17h sur France Inter, le grand entretien, les auditeurs vous auront donc reconnu, car vous êtes...
J'ai commis effectivement quelques interviews sur ce créneau qui commençait comme ça. Charline Van den Ecker, François Bunel.
Hey, c'était classe.
Sur France Inter, Charline Van den Ecker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
J'étais encore en Belgique à l'époque. Grand entretien. Bonjour François Bunel.
Bonjour l'équipe.
Merci d'être avec nous. Alors évidemment,
merci de m'avoir invité. C'est bien de ressortir les vieux de temps en temps.
C'est normal, on a eu vous pouvez prendre. Vous pouvez prendre votre vraie voix. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre la voix de radio.
Ah, d'accord. Vous avez vu, je me penche en avant.
Outre la grande librairie sur France 5, tous les jeudis en direct et en public à 20h50, vous venez nous présenter America, cette revue, l'Amérique comme vous ne l'avez jamais lue. On en a déjà parlé sur cette antenne. On va en parler avec vous d'une manière un peu différente peut-être. C'est une revue trimestrielle, à mi-chemin entre le roman et le journalisme, à la manière un peu de 21, consacrée à l'Amérique, on pourrait dire ça.
Oui, on peut dire ça. Ouais. 21 voilà. Ouvert une voie, je trouve vachement intéressante, qui consiste à redonner du temps long, des grands articles, envoyer des gens au bout du monde, et puis leur donner du temps pour enquêter, pour ensuite écrire des papiers, et voilà. Et donc on s'est aussi inspiré d'eux, pas seulement. Il y a 2-3 revues américaines aussi. L'idée de faire venir des romanciers.
Oui, le temps long, c'est assez anglo-saxon dans le reportage.
Bon, en tout cas, c'est à la fois... Oui, je ne sais pas si c'est anglo-saxon, il y a une vieille tradition française, mais que c'est un peu perdu. Vous savez, les trucs au sud de la Belgique, là, ils avaient du temps, un petit peu aussi d'argent, et vous n'étiez pas vendus uniquement pour faire des téléphones portables et des suppléments. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va proposer aussi à des écrivains, à des romanciers, c'est surtout ça, en fait, c'est proposer à des romanciers de nous raconter autrement les choses. Voilà. Les romanciers, vous savez, c'est les mêmes que nous, sauf que on leur a retiré l'épiderme, donc ils ont la peau à vif et ils trouvent les bons mots.
Justement, alors dans ce numéro, il y a par exemple Douglas Kennedy, Toni Morrison ou côté français Marc Duguin, revue consacrée à l'Amérique avec une durée de vie limitée car l'idée
comme
c'est de...
Ouais, oui. C'est périssable, c'est un produit périssable.
Et ça paraît que la fin du mandat de Trump, personnage de roman, dites-vous dans l'introduction. Alors, est-ce que face à certaines faiblesses du journalisme aujourd'hui en France, on se tourne vers les écrivains ? Pour avoir d'autres mots et un autre regard.
Oh ben c'est pas forcément face aux faiblesses du journalisme, c'est pour faire autre chose. En fait, les journalistes font très bien le boulot, mais ils se copient, ils font beaucoup de choses un peu similaires. Nous, on s'est dit, tiens, il y a un grand absent. Il y a de plus en plus d'humoristes, de plus en plus d'éditorialistes, de plus en plus d'experts, et de moins en moins de barrés. De gens un petit peu rêveurs, de gens un peu allez voir à gauche, en fait ils vont à droite et ils vous rapportent quelque chose que vous n'aviez pas commandé et qui en même temps est génial à lire. Vous savez, moi j'ai grandi avec ça, avec l'idée des reportages écrits à la première personne du singulier.
C'est très vieux alors pour le coup là.
Moi Mathusalem, 20e siècle.
Moi aussi.
À l'époque il y avait des mecs qui s'appelaient Jack Kerouac. Ah, ça vous dit rien,
vous voyez
Nabucodonosor.
Et là il y a par exemple dans ce premier numéro de America un entretien avec Barack Obama qui a été réalisé pendant les derniers jours de son deuxième mandat. Il dit qu'il trouve dans la fiction les vérités sous-jacentes dont nous débattons tous les jours. Vous-même, vous dites, François Bunel, le roman nous ramène au réel, sans doute parfois même plus que les essais. Alors, justement, vous avez à côté de vous Guillaume Meurice, qui ne jure que par les essais, qui a du mal à rentrer dans la fiction parce que ça ne colle pas au réel.
C'est vrai.
Qu'est-ce que vous diriez pour le convaincre ?
Je ne sais pas si je peux convaincre Guillaume Meurice de quoi que ce soit.
Est-ce que c'est lié à l'Amérique ?
J'écoute un tout petit peu le créneau, moi, les enfants.
Je me remets facilement en question, allez-y.
De quoi voulez-vous que je vous convainque, mon petit Guillaume?
De lire des romans. C'est vrai que j'ai un problème avec la fiction, parce que dans ma tête, il y a un petit personnage qui dit « Bon, de toute façon, c'est pas vrai. »
Mais America, c'est une porte d'entrée pour peut-être aider Guillaume Meurice.
Oui, oui, oui. Alors, tenez, je vais vous donner un exemple. Un truc qui est pas vrai, mais vraiment le absolument pas vrai. 1990, un type un peu improbable que vous allez bien aimer, le mec qui passe son temps dans les boîtes de nuit, il schnouffe des trucs et tout, il s'appelle Bret Easton Ellis, et il commet un livre qui va devenir un livre culte pour toute la génération de vieux comme la mienne, c'est-à-dire un truc qui s'appelle American Psycho. C'est l'histoire d'un serial killer, plus exactement d'un trader, vous savez, d'un type qui gagne beaucoup d'argent, étant hyper cynique, qui n'en a rien à foutre de personne, et il a un modèle dans la vie. Il se dit, je voudrais devenir quelqu'un. Et être quelqu'un, pour lui, milieu des années 90, c'est être un certain Donald Trump. Donald Trump est cité 28 fois c'est dans fou. Ce roman de milieu des années 90 parce que il gagne de l'argent, il fait tout bien, il va lancer une émission de télé-réalité et moi je suis un trader, oh, je voudrais bien voilà, je voudrais bien réussir ma vie comme dirait l'autre. Et Patrick Bateman, avant de devenir tueur en série, veut devenir Trump. Et vous avez sur 15 pages une analyse de ce que pourrait être Trump, c'est-à-dire le type qui va gouverner le monde puisqu'il a l'argent. C'est écrit il y a 25 ans. Et c'est une fiction, c'est un roman. Je peux vous en citer 5-6 comme ça.
Et voilà.
Les romans, en fait, ils vous disent avec des mots très choisis et super simples ce que vous aviez dans une partie de votre tête comme intuition, mais que vous n'arriviez pas à formuler. Voilà.
Ah, des, okay, mots simples, okay. Des mots simples, lisez Thomas Mann en allemand.
Ouais. Et je vous renvoie évidemment pour
moi
ça.
Moi je lis en français,
c'est compliqué quand même.
À l'édito de François Bunel dans America, bien sûr, la revue trimestrielle qui est disponible dans les kiosques et dans les librairies.
O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será que será? Que todos os avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desinvestir, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. Não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, que não tem juízo.
Ok, sera Chico Buarque sur France Inter en compagnie de François Bunel qui nous présente la revue America où Toni Morrison dit, je cite un extrait, un pays où chaque émigré, qu'il soit originaire de France, de Pologne, d'Italie ou de Hongrie, était blanc.
à propos de l'Amérique. Lorsque vous êtes blanc, il y a toujours quelqu'un à mépriser. Au cours des années Obama, ces individus ont eu le sentiment de perdre ce statut. Voilà le côté épidermique dont vous parliez et qui décrit mieux la réalité parfois que certains reportages. Ça arrive.
Ouais, c'est vrai. Et la manière dont elle le dit et tout ce qu'elle a écrit aussi. Anthony Morrison, c'est pas grand-chose, hein, Guillaume Meurice. Il y a 10 romans en 86 ans de vie. Mais c'est un livre tous les 10 ans et à chaque fois, c'est des livres assez courts, assez brefs. C'est des petites fictions. Dans lesquelles elle raconte ça, par exemple. Elle raconte qu'en fait, rendez l'Amérique plus grande veut rien dire. Ça veut dire, en fait, rendez l'Amérique plus blanche. Qu'est-ce qui se passe quand les esclaves noirs commencent à s'affranchir? D'ailleurs, pourquoi les esclaves noirs étaient en même temps que les esclaves blancs, esclaves dans les plantations au XVIIe siècle? Alors, c'est marrant, on fait un petit peu un cours d'histoire avec elle, mais on raconte une grande histoire. Et c'est une autre histoire de l'Amérique, vous savez, un truc un peu alternatif. Un peu comme quand Michel Onfray prend la philosophie, il vous vire tous les emmerdeurs, les Kant, les trucs, etc. Et puis il vous dit, attendez, mais il y a aussi le plaisir, le sexe, la vie, le rêve, et tous ces
et quand on dit l'homosexe, on vend America avec François Binel. Et pour entourer François Binel.
Et quand Michel Onfray vire tous les emmerdeurs, il oublie de se virer lui-même.
Voilà.
Et autour de la table, nous avons Guillaume Meurice, Samir Bouadi et Juliette Arnaud.
Et un peu d'informations. Allez.
Bon, allez, à Bruxelles, j'ai pris le train.
Vous mentez. Le journal de presque 17h17.
Ça vous reprend.
C'est un mensonge.
Et on commence par les titres.
À Villepinte, Marine Le Pen a plagié des passages entiers d'un discours de François Fillon.
Et après, elle va encore nous parler du MPS.
Oui, mais faut croire que ça lui... Voilà, oui, là, c'est ça. Dans un souci de calmer le jeu, Donald Trump a dit qu'il serait honoré de rencontrer Kim Jong-un si les conditions sont réunies.
Ah, le dîner de con. On va donc se rejouer.
Il y aura des brèves?
Oui, et en cas de copier-coller, l'avantage, c'est que le plagiat est très bref.
Et on commence par François Fillon.
Oh, ça faisait longtemps, ça.
Le retour. C'est pas de sa faute. C'est Marine Le Pen qui a plagié l'un de ses discours hier au meeting de Villepinte.
Et on écoute la précision du plagiat.
C'est la voix de la culture. C'est la voix du doute, de la discussion, du compromis, du dialogue. C'est la voix de l'équilibre. C'est la voix de la liberté des individus et des peuples.
Et oui, le directeur de campagne David Rachline évoque un clin d'œil assumé qui montre qu'elle n'est pas sectaire.
Audacieux. On peut donc dire que le livre de Patrick Poivre d'Arvor sur Hemingway comporte un clin d'œil assumé à la biographie de Peter Griffin.
Effectivement.
Mais bon, nous, on serait même pour qu'elle plagie François Fillon. Ce qu'on aurait aimé, c'est qu'ils prononcent tous les deux la même allocution.
Mes chers compatriotes, je me suis rendu compte que je me suis bien foutu de vous. Je rendrai donc l'argent. Ce n'est pas le mien, c'est le vôtre.
Celui de la France
que j'aime tant. J'accepterai aussi toute convocation policière et je m'y rendrai dans les plus brefs délais.
Enfin, fort de ces constatations, il est évident que la solution la plus digne est de me retirer de la vie politique.
Vive la République
et vive la France. On reste au Front National.
À Nice, Gilbert Collard a proposé de donner aux pauvres les poissons morts rejeté à la mer.
Voilà, Gilbert Collard, pour l'instant, il est en roue libre. Hein, donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il propose bientôt de donner aux pauvres les migrants. Hein, rejeté à la mer, une chose n'est pas l'autre.
Chez les Républicains, à présent.
Oui, le pot de départ de François Fillon a eu lieu aujourd'hui devant les poids lourds du parti à la Maison de la Chimie, à Paris.
Et il ne sera pas candidat aux législatives, mais il demande à sa famille de rester unie.
Voilà, c'est vrai qu'on ne pourra jamais reprocher à François Fillon de ne pas protéger sa famille. C'est un homme bon pour ça.
Côté Emmanuel Macron, dans une tribune au Monde, Christiane Taubira appelle à voter pour lui.
Voilà, Jean-François Copé hésite à demander la démission de Christiane Taubira.
Noël Mamère aussi l'a affirmé, il va voter Macron et sans se pincer le nez.
Oui, Carla Bruni aussi, mais pour d'autres raisons. À 30 000 euros le nouveau-né, elle ne voudrait pas se l'abîmer.
En marche toujours sur Twitter, Manuel Valls a évoqué la trahison de Nicolas Dupont-Aignan.
Manuel Valls a évoqué la trahison de Nicolas Dupont-Aignan. C'est un peu Véronique Courgeot qui se moque du capitaine Igloo.
International à présent, dans un souci de calmer le jeu, Donald Trump a dit qu'il serait honoré de rencontrer Kim Jong-un si les conditions sont réunies.
Ben voilà, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, l'exemple doit venir d'en haut quand même.
J'espère qu'à deux, ils vont parler coiffure. Oui, il y aura des brèves, sinon.
Oui, des brèves. D'abord, une triste histoire. Dans le cimetière de Boissy-sans-Avoir, dans les Yvelines, la tombe de l'actrice Romy Schneider a été profanée ce week-end.
Oui, c'est là que
Brigitte Bardot est plus forte, puisqu'elle parvient à chaque prise de parole à se profaner elle-même de son vivant. Chapeau à elle.
La dernière.
Oui, ça c'est une bonne nouvelle. Selon une étude de l'université de Greenwich, boire 2 pintes de bière soulagerait davantage la douleur que le paracétamol.
Ah, ça c'est une bonne nouvelle.
Bah oui, la bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, Juliette Arnaud pilote des études désormais.
Il est est 17h26 à Paris et il est 16h26 à Tunis où vous jouerez samedi.
Mais oui, tournée mondiale. Je vais jouer à Tunis si vous avez des amis dans le coin.
Mais figurez-vous, bien sûr. Allez, François Bunel est avec nous, on en profite. Premier sujet. Bon, et alors, ces fameux résultats de la plateforme des Insoumis. Alors, ils sont tombés, je vais vous le dire. Attendez, on entretient encore un peu le suspense. C'est le suspense de cet entre-deux-tours. Comment ont-ils organisé leur parole à travers cette consultation pour dégager une consigne de vote? Et tiens, déjà, d'où vient cette idée de plateforme? Eh bien, voici comment Jean-Luc Mélenchon a découvert cette idée.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Oh, rien, quelques intégrales, des petites vérifications sur les théories des groupes. C'est assez nouveau, c'est amusant comme tout. Ça ne te dit rien?
Si je comprenais quelque chose en mathématiques, j'aurais fait l'artillerie comme Bonaparte. Et comme ton grand-père. L'uniforme m'aurait plu, noir, avec une bande rouge.
Le gentleman d'Epsom de Gilles Grangier, dialogue signé Audiard, Jean Gabin. Voilà, on a les résultats. On a attendu tout l'après-midi. Hein. Donc, d'après l'AFP, plus de 65% des soutiens de la France insoumise ont voté pour une abstention, un vote blanc ou nul au second tour de la présidentielle.
Et certains vont voter Mélenchon encore, probablement.
Peut-être, effectivement. François Bunel, ils nous auront bien animé l'entre-deux-tours, les insoumis.
Les insoumis,
oui. C'est en tout cas cette histoire de plateforme et de ne pas prendre position au départ, etc. Ça vous a chamboulé, vous? Comment vous l'avez vécu, cette période?
C'est quand même assez fou de se dire qu'il y a des gens qui ne font pas la différence entre Macron et Le Pen, quoi. C'est surtout ça qui me sidère. Mais bon, non, c'est intéressant, on apprend plein de trucs. C'est marrant parce que je n'avais pas la même définition dans le dictionnaire du mot insoumission que ça, mais je ne sais pas, maintenant peut-être qu'il va falloir qu'on en réécrive un.
C'est-à-dire que là, ils ne se sont pas soumis à leur leader, ils se sont... c'est quand même collégial, ils ont pris une décision qu'après, ils ne sont pas obligés de suivre. Donc en fait, est-ce que ça sert à quelque chose?
On s'en fout, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Ils ont mis trois jours à prendre une décision qui ne sert à rien.
L'idée, c'est qu'ils sont soumis à leur plateforme. C'est ça un peu.
Ouais, je crois qu'ils sont surtout. C'est marrant, parce qu'on a le sentiment qu'ils sont soumis à un dogme. Mmh. C'est bizarre, ils devraient être libres, non?
Qu'est-ce qu'on dit à ceux qui nous écoutent?
Je lis les tweets et ils nous reprochent presque d'en parler beaucoup, mais excusez-nous, mais déjà ça anime le jeu. Déjà, on trouve ça étrange. Mmh. Alors, ils font ce qu'ils veulent, bien sûr, mais nous, on a le droit d'en parler et de dire qu'on trouve ça étrange.
Et ben voilà.
Dis donc, vous êtes insoumis aux insoumis,
oui, avec des oreilles.
Ça va trop loin dans l'insoumission, là.
Il y a une vague d'insoumission dans ce studio.
C'est
folie, ça. En même temps, s'ils mettent trois plombs pour nous terminer l'émission, à 18h, il n'y a pas de
journée. Ça pose la question de ces fameuses consignes de vote. On sent bien que ça gonfle tout le monde. Je le répète encore une fois, Alex et moi étant belges, c'est un truc auquel on est totalement étranger. Parce que le vote est obligatoire. Le vote est obligatoire chez nous. Mais alors, on est assez grand pour choisir pour qui voter, et ça, on l'entend parfaitement, évidemment. Mais alors, pourquoi des consignes de vote quand on est libre d'aller voter?
Oui, c'est drôle.
Vous aussi, finalement, ça vous questionne.
C'est quand même absurde.
Enfin, en même temps, il y a une modernité à travers ce qu'a fait Mélenchon. Je trouve assez formidable, moi, de dire je ne suis pas. Bon, bien que ce soit du second degré, parce qu'il est quand même assez gourou, le monsieur, mais le côté faites ce que vous voulez, etc. Il y a peut-être une forme de modernité là-dedans. Est-ce que c'est de l'honnêteté intellectuelle ou est-ce que c'est une manipulation en vue des législatives? Je ne sais pas. Mais il y a peut-être un souffle nouveau de chacun doit décider.
Mais ça veut dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'inconscience? Probablement.
Alors, justement, Jean Birrenbaum, le directeur du Monde des Livres, dit il y a une forme d'agonie de l'antifascisme.
Ouais.
Parce que là, l'antifascisme...
D'agonie de l'antifascisme.
Oui. Il ne se dresse plus véritablement contre le Front National. Tout n'est pas fait en sorte pour lui faire barrage.
Ouais, enfin, là, on parle de quelqu'un qui veut le pouvoir aussi.
Oui.
L'antifascisme, il n'est pas forcément que... Pardon, j'adorerais qu'il vienne des Insoumis, mais j'ai l'impression qu'il est aussi ailleurs. Il est chez les gens qui n'ont pas forcément envie de suivre M. Mélenchon dans un délire de pouvoir, qui refuse de prendre position. Parce qu'il y a ça aussi, finalement. Il y a je ne dis rien, chacun jugera, chacun fera. Quand on est un responsable politique qui a fait 19%, on a, me semble-t-il, un tout petit peu de responsabilité, surtout vis-à-vis des jeunes. On a dit beaucoup sur cette antenne que énormément de jeunes avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon. C'est un peu dommage de ne pas entendre une parole claire, surtout de la part de quelqu'un qui reproche à tout le monde, les médias en premier, mademoiselle Van Honecker, de ne pas être claire.
Juliette Arnaud a tiqué,
oui, elle a tiqué
sur le mot jeune.
Oui, parce que j'ai l'impression que les jeunes, justement, ils n'ont pas du tout envie qu'un adulte, le cas de Mélenchon, qui, je vous rappelle, rapproche plus des 70 ans que des 25, leur dise quoi faire. Parce qu'il y a finalement un vote. C'est dans symboliquement, c'est très récent, cette histoire de dire vous n'avez pas voté pour moi, alors maintenant vous allez voter pour un tel au second tour. Enfin,
si je peux me permettre, c'est pas un tel ou un tel quand même. Je voudrais juste dire une chose.
Oui, bien sûr.
Pardonnez-moi, mais
bien sûr, vous faites bien de faire la
précision. On est en 2017 et c'est pas un tel ou un tel.
Non.
c'est le fascisme incarné par Marine Le Pen. On a le droit de vouloir, il n'y a aucun problème.
On est tolérant.
Après, il ne faudra pas dire, on ne savait pas.
Et dans cette émission, on tient bien à faire la différence. On le rappelle sans arrêt qu'on ne les met pas du tout sur le même pied et qu'il y en a un auquel on veut faire barrage.
C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un tel ou un tel pour moi.
Effectivement, on est d'accord avec vous.
On peut faire des émissions d'histoire, se rappeler, sans rentrer dans la fiction. Et c'est là où j'ai rejoint Guillaume Meurice. On se prend un bon bouquin d'histoire, par exemple celui de Pascal Blanchard, que j'ai reçu la semaine dernière. Il y a plein d'images, vous allez voir Guillaume, c'est très facile à lire.
Ça, j'aime bien.
Et le coloriage. Et ça raconte, ça s'appelle Les années 30, et si l'histoire recommençait, point d'interrogation.
Là, c'est de la réalité.
Sur ce point, on est bien
alors
d'accord avec
vous. Alors
que la grande badrouille, non. Samir Bouadi, si on prenait un peu le large, parce que c'est un petit peu...
C'est un peu dur. Enfin, je me
c'est nous, cette histoire. Je me disais on est stressés.
Moi, je me disais que pour une fille de borne, faire des clins d'œil, c'est quand même gonflé. Quand même. Enfin bon, peu importe. Ça, oui, alors, donc, on le sait ou on le sait pas, on le sait peu, mais enfin, Albert Camus, le cher Albert Camus, avant d'être l'auteur de L'Étranger, de Caligula ou de La Chute, a été joueur de foot, figurez-vous. Eh oui, gardien de but. Précisément, voilà, vous le saviez. Un peu comme Julio Iglesias, moi je dis Julio à la française, comme ça. Alors je rassure immédiatement la famille du chanteur, ils n'ont pas d'autres points en commun, a priori. Bref. Camus, donc, qui naquit en 1913 en Algérie et qui mourut à Villeblevin, en France, en 1960, est ce qu'on appelle un sportif raté, puisque toute sa vie, il regrettera de n'avoir pas pu faire profession de sa passion, chère Charline. La tuberculose l'empêche, en effet, de courir, de dribbler, d'accélérer, et le poste de gardien n'est pas un poste fixe comme certains l'imaginent. Ceci dit, ce qu'on a perdu en foot, on le récupère en neurones, manifestement. Puisqu'en 1957, le voilà prix Nobel de littérature, ce qui, avouez-le, sur le CV d'un footballeur, fait vachement classe. Alors le parcours de Camus, au-delà de l'œuvre, est celui d'un déraciné qui va combler ce complexe de non-appartenance à un point fixe, justement, pour s'offrir les grands espaces de la pensée, humanisée, dépatrisée, dénationalisée. Au foot, les buts s'appellent les cages, et l'oiseau Camus, migrant au souffle court, aura les ailes assez larges pour se laisser porter par des vents justes. Ce qu'il perd en foot, donc, ce qu'il perd encore, il va le récupérer en liberté. Il gardera néanmoins de ces années-là des certitudes qui nous passent au-dessus de la tête aujourd'hui, je le cite. Ce que je sais de la morale, c'est au football que je le dois. Oh là, les temps ont changé. Et puis, il gardera aussi de sa pratique du foot cette idée simple, je le cite à nouveau. J'appris tout de suite qu'une balle ne vous arrivait jamais du côté où l'on croyait. Ça m'a servi dans l'existence et surtout dans la métropole. Joli mot, la métropole. Où l'on n'est pas franc du collier. Franc du collier, belles expressions. Sartre dira, en parlant d'un franc du collier, à la lecture de L'Étranger, c'est bizarre, c'est un peu tôt écrit sur le mode sujet-verbe-complément. Ce qui, en foot, tu me l'accorderas, Alex, équivaut à jouer en une touche de balle et à se projeter vite vers le but adverse. Un jeu vertical, donc un jeu à la barcelonaise, quoi. Comme l'écriture de Camus qui, lui, ne plagie que le sens de ce qu'il a à dire. Barcelone. L'Espagne, autre patrie de Camus et terre de lutte où la solidarité des patriotes de toute nation aura vaincu le nationalisme de ceux qui n'en toléraient qu'une. Quand on se replonge dans L'Étranger, on se rend compte qu'il y est question d'une mère qui meurt, d'un arabe assassiné sur une plage, d'un monde d'absurdes justifications, d'un deuil neutre, sans douleur et coupable de ça. La haine est froide et l'univers n'est pas hostile, il est juste indifférent, pour paraphraser Kubrick. Quand on relit le roman de cet étranger-là, venu écrire en France, on se rend compte que l'absurde est au centre, il distribue le jeu. Grand numéro 10, il organise notre chaos en jouant sur la vacuité de nos intentions. Chez Camus, il y a la lointaine certitude que ce qui peut dicter nos actes est souvent à chercher du côté d'un certain relâchement de la conscience et donc de l'action. Au risque de devenir des petits Caligula prisonniers de notre absurde liberté dont le territoire s'étendrait si loin qu'on s'y perdrait, il est urgent d'admettre que l'enfer, ce n'est pas les autres et que nous, nous sommes les autres des autres. Sans écho pour se repérer, la conscience deviendrait un puits sans fond, une éternité vide. L'auteur de La Chute, mauvais gardien de but, a fini par devenir un bon meneur de jeu, J.E., mais au pluriel.
Samir Bouadi,
Lionel Messi de la littérature.
Bon, d'accord. Je sais pas, j'y connais rien en foot, donc.
C'est pas mal, Messi, c'est pas mal.
C'était un complément.
D'objet direct.
Allez, vous êtes sur France Inter. On est en compagnie de François Bunel qui nous présente la revue America et qui tient bien sûr toujours la grande librairie sur France 5.
Bal de Bamako, bal de Bamako, bal de Bamako. Un hibou blanc, imbécile, dans un boubou pas très agile, plutôt fragile. J'ai comme les doigts dans la prise, te voir danser m'électrise, peut-être même que ça m'érotise. que j'étais à l'aise. Malice au mali des merveilles, le mali Dieu créa la flamme. Le mali danse dans mon âme. Béni soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako.
Le capitaine, tu danses pas, sois le croque-mitaine. La voix arrive par la droite, il reste une chance et sois pas maladroite. Fais le décalement, ouais carrément, vire-le, qu'on le fasse légalement. Si tu penses, c'est que c'est possible. Aujourd'hui c'est dimanche, demain aussi. Respire sans morosité, douce ou cassini, porosité. Si quelqu'un appelle, dis-lui qu'on se tire un bal réel. Ton bassin fait l'hélicoptère.
On y soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako.
Sidiki Diabaté, Oxmo Puccino, bal de Bamako sur France Inter, programmation musicale de Djoubaka. François Bunel est avec nous, il co-dirige avec Eric Fotorino la revue trimestrielle très chic, America. Et à côté de vous, il y a l'homme qui se nourrit essentiellement d'essais, mais qui bientôt, grâce à America, va lire de la fiction, ça va être énorme, vrai. Guillaume Meurice.
Oui, moi je vais vous parler aujourd'hui des valeurs de la République. On les entend partout, dans tous les discours politiques, même si c'est pas les interprètes qui les écrivent, hein, on le sait maintenant, la plupart des politiques viennent au meeting les mains dans les poches, avec leur bite et leur couteau, Paul-Marie de son prénom. Mais les valeurs de la République, qu'est-ce que c'est exactement? Alors les voleurs de la République, on connaît, hein, c'est une réserve naturelle d'élus des Hauts-de-Seine. Les malheurs de la République aussi, hein, puisque régulièrement Damien XVI fait une chanson. Mais les valeurs de la République, quelles sont-elles? Alors j'ai posé ce matin la question au peuple de France. Alors pour cette dame, c'est tout d'abord...
De l'honnêteté. Je trouve que les valeurs de la République, fraternité, tout ce que vous voudrez. Mais enfin, moi, ce sont les gens qui me plaisent et qui font une politique qui me convient, avant tout.
Ah bah, du coup, c'est qui alors?
C'était Monsieur Sarkozy. Vous tombez mal.
Mais alors, l'honnêteté pour vous, c'est Nicolas Sarkozy?
Mais c'est pas une question d'honnêteté.
Non, non, ça, avec Sarkozy, on est à peu près sûr que c'est pas une question d'honnêteté. Hein. Les valeurs de Nicolas Sarkozy, elles sont cotées tous les jours à la Bourse de Paris. Son Robespierre, on le connaît, c'est Jean-Yves Courtial. Mais cette dame est quand même fidèle à la devise de la République, la devise qu'on connaît tous.
Ben, la France, c'était liberté, fraternité, et la troisième, je ne sais plus. Non.
Ah, vous savez plus la troisième?
Oh, oui, là, maintenant, je l'ai tellement entendu, je ne sais plus. Attendez, fraternité.
Ah, mais ça, c'est parce que vous soutenez Sarkozy, alors du coup, vous avez oublié celui qui est entre les deux.
Quoi, mais dites-le moi, parce que là, vraiment, franchement, ça ne veut pas...
Ben, c'est égalité.
Oui, oui, égalité. De nos jours, l'égalité, c'est l'égalitarisme, vous comprenez? Alors là, oui, en effet, ça m'échappe. Vous voyez?
Ça ne bon, vous plaît pas, du coup.
Vous voyez comme ce mot-là, vraiment, je l'ai snobé.
Oui, on est dans une période qui snob pas mal l'égalité en règle générale. Elle est un petit peu perdue, l'égalité dans la société. Elle ressemble à un concours de paix dans une émission de François Bunel. Hein, on la regarde avec quand même un petit peu d'appréhension, hein, de mépris et de dédain. C'est vrai que l'égalité est un problème, par exemple pour ce monsieur.
Il y aura à dire qu'il n'y a pas d'égalité partout.
Il faudrait plus d'égalité selon vous.
Oui, parce que j'estime qu'on fait... Moi, je suis français depuis... Et j'estime qu'on fait beaucoup plus pour les étrangers.
Ah ouais. Bon?
Ouais, ouais. Il y a des fois, je dis, bah, si je m'appelais Mohamed, j'aurais le droit à plus de choses que de m'appeler... Voilà, c'est tout.
Attention, parce qu'il y a fraternité aussi dans les valeurs de la République.
Non, c'est pas... Parce que justement... Si on veut parler d'égalité, on oublie un peu la fraternité, parce que bon, bah, y a des choses que ça se fait pas.
Faudrait mettre juste liberté, égalité, alors pas fraternité.
Ouais.
Ouais, va falloir se mettre d'accord, parce qu'il va plus rien rester parti comme c'est parti. On va écrire slip sur la tête au fronton des mairies, on prendra Hanouna comme président, ça ira plus vite. Alors demandons à un autre citoyen, est-ce que cet autre monsieur respecte les valeurs de la République?
Moi, personnellement, j'essaye de les respecter. Après, pour les gens pour qui je vote, c'est pas sûr.
Pourquoi vous votez pour des gens qui les respectent pas?
Et vous avez le choix, là, ce coup-ci? Vous la ramassez, votre question?
Dis donc, comment tu causes, là? Le respect, c'est un fondement de notre démocratie, d'accord? Il est où, le respect? Dans mon fondement, oui, Juliette. Merci, bisous, merci. Bon, c'est pas grave, j'ai continué avec ce même monsieur, toujours sur la fraternité avec les réfugiés.
Est-ce qu'on en refuse vraiment beaucoup?
Ah, on en refuse beaucoup, oui.
Oui, ah bon? Et quand on voit tout ce qu'il y a aux portes nord de Paris, il y en a quand même un paquet, là. Est-ce que ces gens-là ne feraient pas mieux de faire de la résistance dans leur pays, comme nous, on a fait en 44?
Et c'est vrai que nous, en France, on a pas mal résisté, surtout en 44. Donc,
j'aime bien la précision chronologique. En 44.
En 44. Ben, c'est vrai
comme
qu'après,
la pointure.
Après le débarquement, on s'est dit, tiens, non, finalement, le schnapps, non, c'est pas terrible.
À 45, même, je vous mettre.
À 45, on était les Jean Moulin, tous, hein. Et je vous parle même pas de l'année 46. Alors là, c'est carrément tout le peuple de France qui avait défoncé la Wehrmacht en leur faisant les gros yeux, comme ça. Hein, tout le peuple. Alors, tout le peuple, je dis tout le peuple, peut-être pas. Quelles sont les valeurs de la France selon cette dame d'un certain âge?
Le travail.
Le travail, pour vous, c'est une valeur de la République?
Oui.
J'ai peur de la suite.
J'ai travaillé 45 ans, puis c'était autre chose que maintenant. Et puis la famille, bien sûr. Le travail, la famille.
Et la patrie, alors?
La patrie en priorité, bien sûr.
Alors, travail, famille, patrie?
Oui, voilà, exactement.
Mais ça, c'est un petit peu le slogan du maréchal Pétain, non?
C'est pour moi, c'est important, c'est la France, quoi. On part à vélo actuellement, alors.
Eh oui, je dirais même plus, on part à vélo, comme dirait mon arrière-grand-oncle, fan d'Éric Zemmour et de Fausto Coppi. Peut-être qu'il serait temps de se les rappeler, quand même, là, les valeurs de la République, et de les appliquer illico, parce qu'on la sent revenir, la petite bête immonde qui monte.
Merci, Guillaume Meurice. Toujours aussi désespérant. Enfin, reportage, heureusement qu'on se poêle. Allez, vous êtes sur France Inter, il est 17h42. François Bunel est en notre compagnie. Et on a choisi ce deuxième sujet, le plagiat en politique. Parce qu'on connaissait le plagiat des idées, hein, et il n'y avait pas de raison que ça ne s'applique pas au discours. Alors hier, lors de son meeting à Villepinte, Marine Le Pen a repris mot pour mot un pan entier de texte prononcé par François Fillon il y a à peine 3 semaines. Dites donc, pour une fois, c'est pas Alain Minc qui a fait du copier-coller dans un livre, écoutez.
Je trouve que les idées sont faites pour circuler et qu'elles sont faites pour être reprises. Une fois que cela est dit, que c'est une position intellectuelle, il faut respecter la jurisprudence et donc, à l'avenir, je ferai tout ce qu'il faut avec les 28 notes de bas de page qui rendent un livre illisible pour être conforme à la jurisprudence. Mais je n'aime pas que les intellectuels se comportent comme des notaires.
Alain Minc, Magic Alain Minc, une interview donnée aux 20h de France 2 quand une polémique a éclaté à son encontre. Pour une histoire de plagiat.
Vous qui lisez beaucoup à la main que les notes de bas de page.
Non, je lis pas beaucoup à la main. Alors, mon petit Alex, il faudrait faire une césure entre vous qui lisez beaucoup à la main. Comment vous expliquer?
François Bunel, quelles sont les excuses les plus cons que vous ayez entendues pour justifier des plagiats? Là, le Front National dit c'est un clin d'œil.
Ouais, c'est pas mal le clin d'œil. Non, mais il y a des trucs encore mieux. Parce que comme ça, vous comprenez rien. Il n'y a pas très longtemps, un journaliste célèbre qui s'est reconverti en plume, paraît-il, quasi-présidentiel, sauf que moi, patatras, et c'est pas arrivé, avait dit non, mais c'est de l'intertextualité.
Ah,
vous voyez ce que je veux dire?
Ah, oui, bah, oui. Mais ça veut dire
je sais pas ce que c'est.
Personne
d'ailleurs. Donc il y a des mecs aujourd'hui qui font des thèses sur l'intertextualité, parce que vous pouvez mettre ce que vous voulez dans l'intertextualité.
Ouais.
Et voilà. Mais moi, j'aurais voulu avoir une pensée émue pour François Fillon.
Et Roland, et Roland Barthes. Et Roland
non, Barthes. Non, parce que François Fillon, voilà, comme dirait l'autre, il se voulait César, il aura fini Pompé.
Ça fonctionne bien.
C'est pas de moi non plus. Comme c'est plagiat spécial, j'ai été chercher une citation de Georges Clemenceau.
Vous faites bien, effectivement. C'est donc Paul-Marie Couteau qui a soufflé à François Fillon un extrait de son livre « L'Europe vers la guerre » 97, un proche de Marine Le Pen aussi. Donc lui semble ravi que les deux se refilent, se refilent le texte. Mais ça dit quoi, ça? Donc Marine Le Pen plagie mot pour mot François Fillon dans une époque où c'est tellement facile de s'en rendre compte, surtout 3 semaines après.
À mon avis, elle a gueulé sur le mec qui a écrit le discours.
Ça dit
tout, et notamment deux choses. Un sentiment total d'impunité, on s'en fout, on vous prend pour des buses, mais on s'en fiche complètement. Il y aura deux journalistes qui gueuleront, c'est des journalistes de gauche, c'est Charline Van Meeker et sa bande, attendez, pas crédible les mecs. Donc un, je m'en fous. Et deux, bah, je vous en...
Voilà, c'est bien ce qu'on avait compris aussi.
Cette grande génération de politiciens littéraires, quand De Gaulle écrit ses mémoires,
oui,
ça a une valeur
Le Pen,
littéraire.
François
Fillon, non, justement, avant, c'est une valeur littéraire, l'œuvre de De Gaulle. Churchill a été prix Nobel de littérature.
Churchill, c'était inouï.
Il y avait un plaisir.
Israélien encore avant, ouais, ça remonte...
Il n'écrivait pas Churchill, c'est ça qui est horrible. De Gaulle, oui, pour le coup.
Comment ça, il écrivait pas?
C'est-à-dire qu'en fait, il avait beaucoup d'auteurs, Churchill. Je jette un pavé dans la mine,
Seigneur Boisdi.
Enfin, il avait, attendez, il avait un sens de la formule qui fait
indiscutablement.
Ah oui, oui. On va pas. Alors, si vous voulez, on parle d'Alexandre Dumas aussi.
Vous pourrez. Très
bien. Bon, oui, Juliette.
C'est pas grave. Regardez aujourd'hui comment fonctionnent les séries. Vous avez un showrunner. Vous avez un type qui dit alors voilà, voilà l'intrigue. Il y a un type qui se fait enfermer. On lui pique sa nana. C'est son meilleur ami qui le fout dans une forteresse. Ça dure 14 ans. Il revient. Il se venge. Il tue tout le monde.
Allez-y, écrivez.
Moi, j'ai un test de théâtre à monter. Je reviens demain. Et intéresse que ça s'appelle Le Comte de Monte Cristo. Et il fait ça. Comment fonctionne aujourd'hui une fiction? Breaking Bad, voilà, House of Cards, etc. C'est exactement la même chose. Vous avez des showrunners
avec des poules d'auteurs, c'est vrai.
Lisez des
plagiat, ça c'est.
Il paraît qu'il y a des humoristes qui font ça aussi.
Alors moi, on m'a donné un nom, un certain Alex W.
En tout cas, dans le chef de Marine Le Pen, c'est un beau plagiat à la virgule près et tellement incarné. C'est fou, ce culot dans l'incarnation. Quand vous écoutez les deux bandes l'une à côté de l'autre, il y en a un qui énonce comme ça simplement et l'autre qui l'incarne tellement qu'on croirait qu'elle l'a écrit. Ça, c'est les vrais faussaires. Juliette Arnaud.
Oui, alors, hier.
Ah ben voilà.
Hier, c'était le 1er mai 2017. Qu'est-ce que j'ai fait, François? J'ai défilé. Hein. Alors, un slogan pittoresque retient mon attention. C'est la vérité. C'était écrit: si tu vois une tortue sur un manguier, c'est que quelqu'un l'a posée là.
Vous avez défilé où?
J'ai pressenti une portée politique, mais le sens profond m'a échappé. Toutefois, je le note, un peu de poésie au milieu de la fumée des merguez et des gaz lacrymaux, croyez-moi, c'est rafraîchissant.
Que les merguez en fumée.
Je ne mentirai jamais à l'antenne de France Inter. Sinon, l'esprit général des slogans, selon moi, était condensé par un monsieur porteur d'un carton où était écrit en lettres noires. Alors, attention, ça va être plus fruste, moins énigmatique et lyrique, plus dans le genre viril mais correct. Il y avait écrit « pas content ».
Ouais, ça reste bien.
Je pense qu'il avait bien su condenser l'esprit. Là, je sais, vous êtes en train de vous agacer, vous vous dites, ah putain, mais c'est quoi le rapport entre la revue américaine et le 1er mai? Eh ben, bon, déjà, calmez-vous, hein, c'est pas bon pour le teint, la rage. Ça, c'est mon petit conseil bonté du mardi. C'est gratuit, je vous en prie. La beauté, vous le savez, c'est mon poney de bataille. Et puis, le lien, eh ben, c'est l'Amérique. En toute simplicité, parce que, en 1886, le 1er mai, c'est des syndicats américains et un journal anarchiste américain, The Alarm, qui entament un mouvement revendicatif pour obtenir la journée de 8 heures. Donc, grève, baston, avec les jaunes, représailles de la police, tirs dans la foule, jets de bombes, morts dans les deux camps, mais c'est l'acte de naissance de la fête du travail et c'est en Amérique. C'est tout de même paradoxal, cette affaire. Mais souvent, en fait, notre rapport à nous, les Français, et les Européens en général, il est paradoxal avec ce pays. Il est ambivalent, en tout cas. C'est sûr que c'est pas prêt de s'améliorer avec Trump au pouvoir. Typiquement, ma grand-mère, celle qui votait communiste, hein, pas l'autre. Ma grand-mère communiste, donc, elle hurlait.
Ah, si celle qui était tondue.
Voilà. Parce que je suis une vraie famille française. Donc, ma grand-mère, qui votait communiste, elle hurlait si je réclamais de voir Dallas à la télé. Elle me disait, non, tu ne verras pas, je la cite, cette horreur capitaliste de ces horribles Américains qui célèbrent l'argent, le pétrole, la voyougratie en col blanc et Santiago, la flétrissure morale. Mais cette même grand-mère mettait Faulkner au pinacle de la littérature mondiale. Faulkner, Fitzgerald, Toni Morrison, Truman Capote, Jemima Kincaid, Steinbeck, Jack London, Philip Roth.
Respirez, on a le temps.
Carson McCullers, Lee Harper, Salinger, James Baldwin, John Carroll Oates, Jim Harris. J'en passe et j'en suis désolée. Et je vais simplement finir avec Herman Melville parce que la catchline de votre revue trimestrielle américaine.
Ça veut dire quoi, la catchline?
La croche. J'ai dit catchline parce que je me suis dit américaine, elle allait comprendre. Et ben non, il est aux fraises. Donc la catchline.
La clause Molière, s'il vous plaît.
Voilà, de votre revue trimestrielle, c'est l'Amérique comme vous ne l'avez jamais lue. Ouais. Et ça, François, ça c'est de la promesse de campagne. Et même mieux, tel le poisson volant qui n'est jamais la majorité de l'espèce, promesse de campagne tenue, je vais lire Moby Dick.
Super.
Eh ben oui, j'adore. Le rouge au front, je l'admets, je ne l'ai jamais lu. Pire, tel Guillaume Meurice qui dit qu'il sait qui est David Bowie, j'ai dit que j'avais lu Moby Dick. Honte sur Meurice, honte sur moi. J'ai pas lu de Moby Dick. Convaincu de je sais pas trop quoi, trop de symbolisme, est-ce qu'on sait comment naissent les blocages? Comme disait son autre héros à Melville, Bartleby, je préférais que pas. Et puis America est arrivé, je vous jure que c'est vrai, votre dossier merveilleux sur Herman Melville, la triste histoire de sa non-gloire, les dessins et autres productions, et surtout l'article d'Alain Clavel m'ont débloqué. Alors j'ai décidé, on va tous lire ou relire le grand roman américain, celui qui initie le western. Je vais vous laisser avec Toni Morrison, qui au terme d'une longue et géniale interview, se réjouit de la création de votre revue. Elle dit, ça marchera, j'en suis sûre, votre revue. Les gens ont besoin de la littérature et nous avons tous besoin de la, littérature. J'en accepte l'augure. Merci. Bisous. Merci.
Merci Juliette Arnaud. Et d'ailleurs, n'est-ce pas dans Moby Dick qu'il y a un personnage qui vous fait penser à Trump ?
Dans Moby Dick ?
Oui. Non ?
Non.
Ah, j'ai mal lu alors.
Bah Moby Dick, non ?
Le cachalot ?
Non mais Aqab, ouais, d'une certaine manière.
On pourrait aller chercher ce qu'il y a de trumpien chez Aqab, le capitaine de Moby Dick.
Le capitaine Aqab, c'est le type qui est prêt... En fait, Aqab, c'est le, voilà, le bonhomme qui est prêt à sacrifier tout son équipage pour la poursuite de son propre but, de sa propre gloire, hein, c'est ça ?
America, donc la revue disponible dans les kiosques et les librairies. On va aborder ce troisième sujet avec vous, François Bunel. La littérature régionale n'est pas encore assez valorisée, paraît-il. Elle permet pourtant de relier Paris, les régions et pourquoi pas le monde, puisque le genre s'ouvre à des thématiques mondiales. Et 24 maisons d'édition normandes, par exemple, étaient présentes au dernier salon du livre. Et puis il y a beaucoup de gens qui font beaucoup pour les régions en ce moment. On en écoute un.
Je suis député de la République depuis 15 ans. Je n'ai jamais perdu une élection. Cette charge est un honneur. Mais je dois aller plus loin. Plus loin que la vallée d'Aspe, plus loin que ce Béarn et ce Pays basque que j'ai tenté de représenter fièrement.
C'est Jean Lassalle, oh, vous avez manqué.
Alors, ça n'est plus vrai qu'il n'a jamais perdu une élection.
C'est vrai. Oui. Et est-ce que son temps de parole est compté pour un candidat?
Et non, il a appelé à s'abstenir ou à voter blanc. Blanc, pardon.
Encore un. Bon, alors.
Non, sérieux ?
Ouais, il a appelé à voter blanc.
Et on se posait une question tout à l'heure. Pour qui la consigne de vote d'Asselineau, vous disiez ?
Non, mais on ne sait pas, justement. On ne sait pas. Et moi, j'attends ça avec impatience.
Et si on a une information, on va la donner. Enfin, revenons-en.
En plus, on pose vraiment la question. En plus.
Oui, ça se trouve.
Revenons-en.
Il attendait que quelqu'un lui demande.
Revenons-en à ce sujet et à un article traité dans Le Monde. C'est best-seller de littérature régionale. Ne les qualifiez surtout pas d'écrivains de terroir. Leur roman, souvent de remarquable succès de librairie, s'ouvre sur le monde. Alors, François Bunel, est-ce que les auteurs de la littérature régionale, ils sont représentés dans les grandes émissions, ça vous arrive de recevoir des auteurs de...
Bah oui, je reçois Philippe Solers, qui est un écrivain régional de Paris.
De Saint-Germain-des-Prés.
Exactement.
Il y a un côté terroir, il y a près dedans.
Ils sont souvent représentés.
C'est bizarre, enfin, je réponds un peu par une boutade, parce que c'est vrai que auteur, écrivain régional, j'ai jamais, pardonnez-moi, je vais être un peu provocateur, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Pagnol.
Giono.
Bah, c'est un écrivain, ce sont des écrivains, tout simplement. Et le truc qui est génial, c'est que précisément, être écrivain, c'est aller vers l'universel. C'est dire, ma petite région, elle est peut-être formidable, mais je vais aller au-delà de mon Béarn. J'écris, j'emploie des mots qui sont compréhensibles et lisibles par tout le monde, et tout à coup, je fais de mon coin de Provence votre coin de Provence. Vous vous l'appropriez, vous là-haut, dans les brumes belges, de loin. Et voilà, donc je comprends pas vraiment cette opposition qui me semble assez artificielle, un peu créée par des journalistes qui ont besoin de remplir des paplards, entre d'un côté la littérature et de l'autre la littérature de terroir ou régionale. Il n'y a pas de littérature de terroir. Est-ce que Michel Onfray est un philosophe normand ?
Oui.
est-ce que vous le mettez dans quel quota ? Est-ce qu'Albert Camus, dont nous parlait très très bien Seigneur tout à l'heure, est-ce que Albert Camus est un écrivain algérien ?
Non, mais Tennessee Williams est un écrivain sudiste.
Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, Tennessee Williams, aujourd'hui, quand je lis certaines de ses pièces, je me dis que ça peut se passer n'importe où. Faulkner, par exemple, est tellement sudiste.
Bien sûr, ça a une portée universaliste.
Ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, un écrivain, en revanche, son œuvre est universelle. Sinon, ce n'est pas un écrivain, c'est un mec qui fait des trucs qui n'intéressent que lui. Et puis sa famille, ses amis, et donc famille, amis, terroir, voilà, on revient dans l'isolationnisme bien connu d'une certaine campagne aujourd'hui. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse en littérature, c'est ce qui me permet de découvrir ce que je ne connais pas. Voilà. J'ai envie que vous me parliez de l'Algérie ou de la Provence comme si j'y étais. Quand je lis Boualem Sansal, formidable écrivain algérien, menacé de mort dans son pays, je n'ai pas l'impression de lire un écrivain algérien. J'ai l'impression de lire un grand écrivain qui me parle de l'Algérie, c'est pas pareil. Mais vous savez, il y a toute une tradition aussi, ce qu'on a appelé l'école de Brive. Brive-la-Gaillarde, la Corrèze.
Où il y a un salon du livre aussi qui anime la chose.
Moi, on les reçoit régulièrement. Par exemple, Christian Signol n'est pas pour moi un écrivain régional. Ça se passe à Brive, c'est quelqu'un qui aime les mots. Jim Harrison écrivait, qui est pour moi le plus grand écrivain, un des plus grands écrivains contemporains, même s'il est mort il y a 2 ans, il écrivait des bouquins qui se passaient dans le Nebraska, dans le Montana. C'est pas un écrivain régional, c'est un immense écrivain.
Et Pierre-Jacques Ezélias et tout ça.
On a senti que ce
Patrick
sujet...
Patrick Sébastien est de Brive aussi.
Vous inspirez et voilà pour la mise au point.
Monsieur Bunel, vous connaissez l'émission, vous savez Monsieur qu'à Lizarac. La fin, on a un exercice à vous donner, hein, le sketch, mince, évidemment. Mais ça va aller parce que vous êtes François Bunel dans le sketch. Alors. Hier, on a parlé des casseurs qui étaient présents à la manif du 1er mai et on a parlé de casseurs professionnels. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y en a un qui a écrit un livre et qui est invité à la Grande Librairie. Ouais. C'est Guillaume Meurice, vous êtes François Bunel. On se rend tout de suite sur le plateau de la Grande Librairie.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la Grande Librairie. Ce soir, je reçois, pour la énième fois, Jean d'Ormesson. Bonsoir Jean.
Bonsoir.
Mon cher Jean, vous venez donc nous présenter votre 24e et dernier roman.
Plus exactement le 28e dernier roman.
Alors c'est un hommage à la littérature que vous avez intitulé, je cite, livre, virgule.
Exactement, celui-ci c'est vraiment le dernier.
Et si c'est pas le dernier, je te fracasse.
Attends, se calme.
Je suis très calme.
J'adore les gens calmes comme vous.
Alors j'en viens à votre ouvrage, mon cher Jean, oui. Car à côté de vous, il y a Kevin. Oui. Kevin qui pratique un métier atypique. Kevin, vous êtes casseur professionnel.
Salut François.
Ah, d'accord, alors vous rangez la batte de baseball.
Quoi ? J'adore les battes de baseball.
Et alors vous, Kevin, vous venez pour un ouvrage qui s'appelle Casseur Sourire.
Ouais.
Mais est-ce que... la question que je me suis posée en lisant votre ouvrage assez palpitant, c'est au départ, est-ce que vous aimez les livres ?
J'aime surtout les pavés, en fait.
Moi aussi, j'adore les gros livres.
Non, les pavés pour les envoyer de ta gueule.
Kevin, on se calme.
Je suis très calme, là, ok ?
Heureusement qu'il est calme.
Alors Kevin, la question que tout le monde se pose, c'est... Ouais. Kevin... Comment devient-on casseur professionnel ?
Ça c'est très simple, très très simple. J'ai fait les grandes écoles.
Ouais, Louis le Grand par exemple.
Non, le lycée Bertrand Cantat. En dernière année, j'ai pris une spécialisation en manifestation après avoir hésité avec l'option hooliganisme.
Et ce métier, c'était une vocation ?
Tout à fait, c'est une vocation. Gamin, j'ai cassé mon berceau. Ado, la niche du chien, pareil, cassé, tout cassé.
Ah ouais, vous avez cassé la niche.
Et oui, le chien aussi, tout cassé.
Formidable. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire, mon cher Jean d'Ormesson ?
Moi, dans ma vie, j'ai beaucoup cassé. J'ai cassé la croûte à la rotonde. J'ai cassé les oreilles au Figaro, j'ai cassé du sucre sur le dos.
Si tu continues, je vais te casser la pipe.
Ah, vous avez de l'esprit.
Non, c'est pas ce que j'ai le plus, ça, l'esprit.
J'adore l'esprit.
Mais tais-toi.
Voilà, on va rendre l'antenne toute cette soirée hommage à Jean d'Ormesson qui vient de nous quitter, grand écrivain.
Vous étiez magique.
Attends, je découvre le texte
tous les jours.
La Grande Librairie, je rappelle que c'est sur France 5 tous les jeudis en direct et en public à 20h50.
Et avec Jean d'Ormesson.
Merci François Bunel de nous avoir parlé de la revue trimestrielle América qu'on recommande chaudement. Merci beaucoup. Et puis on va laisser le mot de la fin au 10e art, c'est-à-dire le plagiat.
Fini de répéter tout ce que je dis, toi.
Tu vas répéter ce que je dis, toi.
Tu te tais maintenant.
Tu te tais maintenant.
C'est fini, oui.
C'est fini, oui.